France Inter. Le 18-20, Fabienne Sintès.
En préparant cette émission, je suis tombée sur un chiffre et il m'a littéralement renversée. Dans 8 cas sur 10, ce sont les parents qui insultent les directeurs d'établissement. Le chiffre tombe un peu quand il s'agit d'enseignants insultés, mais enfin, pas tant que ça. Je vous passe les remarques parfois très méprisantes sur le cahier de correspondance, une muflerie ordinaire qui laisse parfois sans voix. Aujourd'hui, le professeur ou l'instituteur n'est plus une figure façon Troisième République, et tant mieux probablement. Il n'est pas interdit de le lui dire quand il se trompe à nos yeux. Tous n'ont pas toujours raison tout le temps. Et les parents ont leur place évidemment dans l'école. Mais le fait est que les relations parents-prof se sont fortement dégradées. Parfois sur des broutilles, on pinaille la sortie scolaire, le choix d'un livre pour les enfants. Parfois on s'agace vraiment très fort sur une punition, sur une remarque, sur une mauvaise note. Parfois ça va beaucoup plus loin et c'est même tragique. Ce soir on va parler de limites, de droits d'ingérence dans les salles de classe, de relations à réparer parfois. Et c'est le moment puisque c'est la rentrée. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Églantine, c'est vous la première. Bonsoir et bienvenue au téléphone sonne.
Bonsoir Fabienne Sintès.
Et on vous écoute, Églantine.
Eh bien, je voulais dire que les parents sont les bienvenus à l'école pour se plaindre ou pour essayer de comprendre ce qui se passe, dans la mesure où ils respectent l'enseignant et ils arrivent avec un esprit ouvert. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils partent du principe que si quelque chose les énerve, qu'ils ne comprennent pas, ils viennent pour engager le dialogue de manière objective et constructive plutôt qu'agressive. Moi, par exemple, en tant qu'enseignante, j'aurais pas la même approche et le même ressenti avec des parents qui arrivent en me hurlant dessus que mes cours sont de la merde, que je suis incompétente, qu'avec ceux qui me disent bah, « je ne comprends pas comment vous construisez votre cours, etc. » Il faut arriver à désamorcer les situations et à ce que chaque partie vienne dans un esprit vraiment communication, compréhension avant tout.
Mais est-ce que c'est compliqué, Églantine? Est-ce que vous avez l'impression que ça devient plus compliqué aujourd'hui ou pas? Que d'emblée, d'abord, certains parents, en tout cas, arrivent remontés comme des pendules, si je peux me permettre, et qu'il faut vraiment désamorcer tout de suite, en fait.
Ça devient compliqué dans le sens où les parents arrivent en voyant la situation au travers de leur ado et au travers de leurs propres mauvais souvenirs et des clichés sur les profs. Donc déjà, ils se mettent dans une mauvaise condition pour venir nous voir. Et puis d'autre part, nous, en tant qu'enseignants, quand par exemple, après les réunions, pendant les réunions parents-prof, qui viennent après une journée de travail, après des problèmes de discipline à gérer, on est fatigué, on arrive avec des gens en face de nous qui sont extrêmement agressifs, c'est difficile de désamorcer la situation, effectivement. Ceci dit, je tiens quand même à préciser qu'il y a certains parents qui sont tout à fait compréhensifs, tout à fait respectueux et avec qui on arrive à avoir un dialogue des plus constructifs.
Et merci beaucoup. En effet, il n'y a pas les parents et les profs. Il y a parfois des parents compliqués, des profs aussi. Et on va essayer de démêler tout ça. Merci beaucoup pour cette entrée en matière, Églantine, pour vous répondre, pour discuter ensemble et dialoguer jusqu'à 20h. Frédéric Rollet, là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de lettres au Collège Lavoisier à Lambersart, c'est dans le Nord. Oui. Vous êtes secrétaire général du SNES-FSU. Et bonsoir à vous, Georges Fautinos. Vous m'entendez ou pas?
Bonsoir.
Ah, formidable. Vous êtes ancien inspecteur de l'éducation nationale. Vous venez de remettre une note sur l'utilité d'un partenariat école-parent dans le but de lutter contre la violence scolaire. C'était à Jean-Michel Blanquer, évidemment. Puis vous avez été chargé de mission interministérielle aussi sur la relation école-parent. On remercie au passage nos amis de France Bleu Nîmes, puisque c'est là-bas que vous êtes, pardonnez-moi cette expression, dans les tuyaux. Frédéric Rollet, sur ce que disait Églantine à l'instant. D'abord, le fait que, oui, c'est plus compliqué. Il faut désamorcer des choses d'emblée. Alors chacun a probablement sa journée de travail dans les pattes, mais néanmoins, il y a quelque chose de changé peut-être, en tout cas, dans la relation entre les parents et les enseignants.
Oui, c'est sans doute plus compliqué que ça ne pouvait l'être il y a 30 ans où il y avait une espèce d'autorité qui s'imposait, où les parents considéraient que l'école c'était vraiment l'affaire de l'éducation nationale, alors que en fait l'éducation, évidemment, il y a l'éducation scolaire et il y a l'éducation par la famille, donc et maintenant tout le monde est scolarisé jusqu'à...
J'entendais vous parler de coéducation, j'imagine que ça vous fait un peu bondir, non, ce genre de terme?
Non, mais je parle, je fais la différence différence entre l'éducation scolaire. Nous, on a l'impression, on dit souvent la socialisation par les savoirs, l'éducation dans la famille est un peu est d'ordre différent. Donc, chacun y a évidemment sa part. Les choses sont différentes aussi selon l'âge des enfants. La collègue qui vient d'appeler, manifestement, est dans le premier degré, où les parents sont très présents puisqu'ils viennent chercher les enfants à l'école. En collège et en lycée, c'est un peu différent, notamment au lycée, où les élèves, pour certains, sont majeurs, où il y a une revendication d'autonomie. Et au collège, où les choses, quand on regarde les incidents, c'est souvent au collège et en lycée professionnel aussi que ça se produit, parce que ce sont au collège, c'est un moment où les jeunes sont en pleine maturité, sont en train de se construire sur tous les plans. Au lycée professionnel, souvent pour des raisons de sentiment de relégation d'échec scolaire. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est à la fois combattre les idées reçues, hein, j'en énumérerai quelques-unes, les parents s'occupent pas de leurs enfants, les parents démissionnaires, etc. Ça, c'est pas vrai. Et en même temps, ne pas minimiser, ne pas être aveugle. On a de motifs de différents.
Georges Fautinos, il y a un mail sur franceinter.fr qui est pour vous, au fond. C'est Françoise qui est à Bourges et qui nous dit: de nombreux parents jugent le travail des profs comme s'ils pouvaient le faire eux-mêmes. Mais évidemment que non, le travail d'enseignant n'est pas toujours un métier pour eux. J'aimerais votre sentiment là-dessus, Georges Fautinos.
Oui, je vais m'inscrire un peu en faux par rapport à ce qui a été dit. Je trouve que la situation relation parent-école se dégrade d'année en année. Je veux dire par là que depuis 10 ans, par exemple, les différends avec les parents ont doublé. La victimation des personnels enseignants et en même temps des chefs d'établissement, eh bien, a augmenté considérablement. Les dernières enquêtes que j'ai menées sur la victimation des directeurs d'école, il y en a eu 4404 qui ont été interrogés, et des chefs d'établissement, montrent la victimation
occasionnée
par les parents.
C'est de là que j'ai sorti ce fameux chiffre, 8 sur 10.
Vous voyez, la situation, à mon avis, là, pour l'instant, personne ne l'a vraiment prise en compte.
Mais qu'est-ce qui a changé, selon vous, Monsieur Fautinos? Pourquoi, subitement? Parce que, pardon de le dire comme ça, il y a aussi la société qui a beaucoup bougé. Regardez comment on se traite les uns les autres, y compris sur les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est aussi, est-ce que c'est aussi dû à ça, au fond, qu'on insulte le professeur comme on est capable d'insulter qui que ce soit dans d'autres circonstances? Est-ce que c'est l'école qui aujourd'hui a vraiment ce problème-là, ou est-ce que c'est plus général? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique dans l'école?
Oui, il y a quelque chose de spécifique à l'école, puisque nous sommes l'exception française par rapport à ce positionnement école-parent. Je veux dire, par l'histoire de notre école publique, au départ, il ne faut pas oublier, c'est fait contre les parents, complètement contre les parents. L'obligation scolaire pour sortir les enfants de leur maison a été importante. Et même les philosophes de l'époque disaient que, par exemple, les parents en majorité ignorants, superstitieux, obscurantisme. Je veux dire que les mots étaient très forts. Et puis ensuite, vous avez eu l'évolution du système où les parents sont devenus partenaires. Et après avoir été partenaires, ils sont devenus usagers et clients. Et maintenant, le dernier avatar, depuis 2013, c'est la coéducation. Et quand vous êtes dans votre classe, vous référez à quel modèle? Eh bien, ce que j'ai rencontré à travers toutes mes enquêtes, c'est que l'enseignant se réfère à différents modèles. Si vous préférez le modèle du parent assujetti, comme au modèle du parent coéducateur. Et c'est là la difficulté. Il n'y a pas de volonté, me semble-t-il, politique de créer une véritable relation parent-école construite, vraiment un axe majeur.
Avant de retourner au standard, Frédéric Rollet, sur cette relation, je parlais de droit d'ingérence tout à l'heure, et je le faisais sciemment dans l'introduction. En gros, jusqu'où les parents ont le droit, ont le devoir, on doivent regarder ce qui se passe effectivement dans les salles de classe? À quel moment l'enseignant doit fixer une règle? Est-ce qu'une règle doit être fixée en début d'année? Voilà, cette classe, c'est chez moi. Après, vous pouvez dire ce que vous voulez, comme le disait tout à l'heure Églantine, mais la classe, c'est chez moi. Est-ce qu'il faut fixer ces règles-là?
Je crois qu'il faut fixer effectivement des règles qui impliquent la transparence et qui impliquent l'explicite. En début d'année, là-bas, moi j'étais dans mon collège ce matin, on reçoit par exemple souvent les parents des sixièmes, hein, quand on est en collège, on explique le programme, on explique ce que l'on va faire. À partir de là, c'est l'idée, bon, c'est moi, je suis professeur, c'est un métier. Effectivement, c'est moi qui vais choisir les méthodes d'apprentissage, les évaluations, etc. Et on a effectivement de quelquefois des tensions autour justement de ces questions d'évaluation. Vous avez mis telle note ou telle remarque à mon enfant sur l'organisation du travail. Et là, je pense qu'il faut essayer de déminer ça. Mais là, c'est vrai que ça fait partie de l'expertise professionnelle des enseignants, oui.
Bonsoir, Katie.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, on vous écoute.
Merci beaucoup. Je souhaite souligner un problème qui exacerbe les relations, qui pourrait exacerber les relations entre professeurs, parents et enfants. C'est l'importance de Parcoursup. Aujourd'hui, c'est plus le bac, ma fille vient de passer ce parcours, Dieu merci avec succès, c'est plus le bac qui sanctionne vraiment, en fait. Ce sont les bulletins qui sont injectés dans Parcoursup et on va demander un niveau. Quand vous tombez sur un professeur qui sac l'ensemble d'une classe, que vous découvrez, et quand je dis saqué, c'est vraiment saqué, hein, c'est-à-dire que des élèves qui ont fait des certifications d'anglais, qui ont fait des séjours en Angleterre, qui ont des moyennes de 16 à 18 habituellement, qui d'un coup se retrouvent à 11 ou 12, que le problème est connu, que les parents d'élèves vous disent « moi je ne vais pas m'opposer à ça parce que je ne veux pas que mes enfants à moi soient saqués également », ça devient très compliqué et la colère monte. Alors moi je suis très bien élevée et je suis absolument contre l'agressivité, mais j'avoue que j'ai eu une colère très forte parce que il y a beaucoup d'amis de ma fille qui n'ont pas pu intégrer des cursus internationaux à cause de ça et qui ont eu des 16 et 18 au bac, mais c'était trop tard par rapport à la sélection de Parcoursup sur les premiers bulletins. Voilà. Donc aujourd'hui, on manque d'instances. Les parents d'élèves, ils ne devraient pas avoir leurs propres enfants dans les classes qu'ils représentent. Parce qu'il y a cette impossibilité à un moment donné. Si vous devenez un leveur de problèmes... Eh bien, la tension monte.
Merci beaucoup, Katie. Il y a deux choses très intéressantes dans ce que dit Katie Georges Fautinos. D'abord, effectivement, désormais, les notes sanctionnent beaucoup plus que l'examen, le contrôle continu, le bulletin. Est-ce que ça crée effectivement cette tension que nous explique Katie et est-ce que ça participe, selon vous, aux difficultés que peuvent rencontrer parfois les parents et les profs entre eux?
Vous savez, les différends que j'ai évoqués là, qui ont considérablement augmenté, la première cause des différends, ce sont les violences. Mais la deuxième cause, ce sont les notes, c'est la scolarité, ce sont les redoublements. Et à un moment, il avait même été évoqué que tout simplement l'orientation en fin de troisième, c'était l'élève qui choisissait plutôt que l'enseignant et le chef d'établissement. Et il y a ce problème sous-jacent, c'est-à-dire ce conflit latent, mais vraiment très important sur l'orientation des enfants.
Et de plus en plus probablement aujourd'hui, on le voit avec la réforme du lycée, on aura l'occasion d'en reparler dans le téléphone sonne, cette angoisse-là des enfants, donc des parents, se retourne vers les profs aussi, non, Monsieur Fautinos?
Oui, complètement. Mais là, si vous préférez, il y a tout le travail en amont qui n'a pas été fait. Le travail en amont, c'est-à-dire travailler en commun avec les parents d'élèves, mais pas au niveau uniquement des paroles, pas uniquement au niveau des invitations, entre guillemets, ces fameuses réunions où les parents d'élèves, on en ressort avec rien. Non, ce que je veux dire par là, une véritable politique de relations, c'est travailler avec les enseignants sur des problèmes concrets, sur des projets concrets. Et ça, je l'ai rencontré un certain nombre de fois. Et à partir du moment où vous travaillez sur des projets concrets avec l'enseignant de la classe de vos enfants, on s'aperçoit immédiatement que les relations deviennent totalement apaisées. Et chacun se comprend. On ne peut monter une politique de relations par école sans une confiance réciproque. Ça, c'est fondamental. C'est un postulat, c'est un préalable absolu, confiance réciproque et reconnaissance des compétences de chacun. À partir de là, vous pouvez tout construire.
Frédéric Rollet, il y a autre chose dans la question de Katie qui est extrêmement intéressant sur les parents d'élèves, en effet. Est-ce qu'on peut imaginer des parents d'élèves soient représentants d'une classe qui n'est pas celle où est son propre fils ou sa propre fille?
Dans la réalité, ça arrive déjà assez souvent. On a des classes où on n'a pas de parents qui souhaitent ou qui qui peuvent se libérer pour être délégués, et où ce sont des représentants des fédérations qui le
parce
sont.
Parce qu'on dit beaucoup, pour le coup, chacun pour son grade, on dit beaucoup que les parents sont représentants dans des classes aussi parce qu'ils ont surtout envie de suivre au plus près leur enfant, mais que finalement, la classe en général les intéresse moins.
C'est tout le problème de la représentation, d'une survalorisation dans l'école française, aussi de la concurrence. On sait l'importance en France de l'école et la pression qui est mise sur l'école parce que derrière, c'est la position sociale, c'est le métier. Et on a de ce fait aussi des formes, de concurrence et qui font qu'on est avec des parents qui mélangent quelquefois, c'est effectivement l'intérêt de leur propre enfant avec celui de l'intérêt de tous les jeunes et notamment les questions de mixité sociale.
Et dans un cas comme celui qui nous a été évoqué, une espèce de cas d'école sans mauvais jeu de mots, d'un prof qui est réputé pour noter assez bas, est-ce qu'il y a une manière pour les parents de au moins en parler, pas forcément au prof lui-même, mais au-delà, au chef d'établissement, puisque, comme le disait notre auditrice, il va y avoir un dossier, que ce dossier va être envoyé à Parcoursup et que ça va avoir une grosse conséquence.
Oui, alors là, l'auditrice fait allusion, bon, c'est pour ça qu'on a eu le mouvement contre la réforme du lycée et du bac et Parcoursup, parce qu'effectivement, le couperet tombe tôt et on a le sentiment qu'on veut enfermer très très vite les jeunes dans des parcours. D'autant plus que là, si vous regardez avec la réforme du lycée, je regardais ce matin les constitutions de classe, on va avoir 40 à 45 profs par classe. Ce qui fait que ça va tendre encore les relations avec les parents, parce que la notion d'équipe, dans ces cas-là, devient extrêmement complexe. En général, vous avez de toute façon un dialogue avec les parents qui s'installent dans l'année sur l'évaluation. Et le chef d'établissement sait quand quelqu'un est supposé.
Le chef d'établissement, mais.
De façon très difficile.
Mais le dossier Parcoursup, non.
Le dossier Parcoursup, non. Mais c'est ça le problème. Normalement, on devrait pouvoir accéder sans barrière à l'enseignement supérieur.
Frédéric, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, Frédéric, allez-y.
Ah donc, moi, je suis enseignant, donc j'enseigne depuis un peu plus de 20 ans, et en fait, je me rends compte qu'un des freins principaux à la communication entre les parents et l'institution, c'est justement que cette communication passe presque obligatoirement par l'écrit. C'est-à-dire qu'on a donné à des générations de parents comme seul moyen de communiquer le fameux carnet de correspondance. Donc, en fait, les parents qui avaient envie de poser une petite question anodine, passaient parfois pour une agression parce qu'ils connaissaient pas le ton, les codes, etc., etc. Les parents n'osaient pas écrire dedans parce qu'ils écrivaient mal, parce qu'ils faisaient des fautes d'orthographe et parce qu'ils font des fautes d'orthographe. Donc, en fait, les gens, c'est un frein énorme à la communication. Et en fait, on continue à nous obliger, nous enseignants, à utiliser cette cochonnerie parce que j'utiliserai pas d'autres mots. Et aujourd'hui, je suis devenu un fervent ennemi du carnet de correspondance depuis une vingtaine d'années. Je donne systématiquement mon numéro de portable à tout le monde, c'est-à-dire à tous mes élèves, à tous les parents. Et je n'ai jamais eu personne qui est venu m'harceler ou me poser des questions, etc., etc. Je demande pas à tous les enseignants de faire ça, bien au contraire. Mais à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai étudié le système britannique, donc j'ai travaillé dans un programme où on a étudié ce qui se passait dans d'autres pays en Europe, notamment en Grande-Bretagne, notamment en Écosse. En Écosse, les enseignants ont tous une boîte vocale. De ce fait, les enseignants qui ont envie de poser une question, les parents qui ont envie de poser une question toute bête, anodine,
peuvent le faire à l'oral plutôt que l'écrire, en fait.
Voilà, de manière très simple, avec les nuances, avec le ton, avec tout ce qu'on peut faire qui fait que la communication va être de qualité, et ben là, on arrive à créer un lien intéressant. Et moi, depuis 20 ans, j'ai envie de dire, je m'envoie pas les fleurs, mais j'ai une très bonne relation avec les parents. Les parents qui ont une petite question toute bête m'envoient un texto. Si je trouve que c'est futile, j'attends un peu. Si je réponds directement à l'élève le lendemain ou la semaine suivante, si c'est urgent, je réponds rapidement. Et j'établis une très bonne relation avec les parents. Et je pense que le carnet de correspondance, il est temps que l'éducation nationale se pose réellement la question de la communication avec les parents et qu'elle oublie définitivement cette obligation de passer par l'écrit, qui est un frein monstrueux.
Merci.
J'utilise absolument monstrueux. Merci. Voilà, bonne journée.
Merci, bonne soirée, bonne journée à vous. Tiens, je rajoute à la question de Frédéric à l'instant, celle de Lydie, qui nous dit qu'elle est enseignante en collège rural depuis 28 ans. Je demandais l'achat d'un livre sur le carnet de correspondance et le fils d'un parent a écrit « Il est hors de question que j'achète ce livre, mon fils n'a jamais rien lu. » Alors quel intérêt de l'obliger à cette lecture ? Georges Fotinos, c'est intéressant ce que dit notre auditeur sur la relation écrite qui est parfois compliquée pour certains parents et où le ton qu'on emploie n'est pas forcément celui qu'on aurait finalement employé devant le professeur ou devant l'élève. Un peu comme nous, quand on reçoit un mail, en général, il est assez raide, alors que quand on a les gens en face de nous, bah, finalement, la discussion peut se faire de manière beaucoup plus détendue. Monsieur Fotinos,
vous savez, je crois que...
Allez-y.
Vous savez, je crois qu'il y a une solution très simple pour la parole. J'ai assisté à ce type d'expérience. Une pré-rentrée, une journée de rencontre avec les parents. Mm-hmm. Une journée de rencontre, j'ai bien dit avant le début des classes, puisque quand vous rencontrez les parents, c'est déjà l'année scolaire est déjà commencée. Donc, si vous préférez, les différents peuvent naître. Non, avant. Donc, rencontre parents, enseignants, toute une journée, avec des moments ludiques, hein, pas uniquement des moments purement d'apprentissage, entre guillemets. Mais à partir de là, mettre à plat, j'ai bien dit mettre à plat, toutes les questions, tous les problèmes. Et quand vous ressortez au bout d'une journée de travail de cette façon-là, vous ressortez en règle générale avec un accord entre parents et enseignants qui donne lieu à un document de type modus vivendi charte, et qui va régler d'une façon complètement déminante, désarmante, toute l'année scolaire. Et là, vous n'avez pas perdu votre journée parce qu'après, tout se déroulera presque comme du papier à musique.
Alors, ça existe déjà, Frédéric Collet, dans les toutes petites classes, le fait que les parents sont là la première journée. J'entends les parents qui nous écoutent et qui disent qu'ils n'ont pas une journée entière de travail à consacrer à ce genre d'exercice, même si, évidemment, que ça pourrait être utile.
Oui, il y a cet obstacle réel. Hein, que les parents sont, pour la plupart d'entre eux, salariés. Bon, moi, je nuancerai un petit peu ce que vient de dire ce que a dit le collègue sur le carnet de correspondance, parce que il y a aussi des questions de responsabilité, par exemple juridique. Si vous
faut
organisez
que les choses
une sortie,
écrites, vous voulez dire,
qui est accord, qu'on soit sûr et qu'il y ait une signature du père ou de la mère, ou en tout cas du responsable, signalant qu'il a bien été informé. Ensuite, c'est vrai qu'il faut travailler probablement plus l'oral, parce que notamment avec les parents qui n'ont pas complètement les codes et les normes qui sont ceux de la culture scolaire. Et on parle beaucoup du bâti des établissements, mais j'ai toujours pensé qu'il faudrait des lieux aussi qui soient autres que la salle de classe, où on est derrière le bureau dans une position qui est déjà un peu interprétée comme infantilisante ou hiérarchique.
Monsieur Fotinos, vous vouliez rajouter quelque chose ? Allez-y.
Oui, là, on a oublié l'objectif principal. Pourquoi cette relation parent-école ? Pour un objectif précis, c'est la réussite des élèves. Et toutes les expériences, toutes les études nationales et internationales montrent qu'une bonne relation parent-enseignant améliore la réussite des élèves. Donc c'est fondamental. Et deuxièmement, si actuellement il y a un divorce qui s'est amorcé, le lien social est distendu. Il y a un risque quelque part pour l'école publique. Donc si vous préférez, là c'est un problème national et le résoudre, eh bien, c'est tout simplement que l'école laïque, publique et obligatoire continuera de belle façon et à progresser.
Bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu Patrice, on vous écoute.
Merci. Oui, je crois que votre thème mériterait quasiment une étude sociologique sur les relations parents avec les enseignants. Je voulais apporter un témoignage. J'ai été durant pas mal d'années instituteur et je crois que je peux pouvoir dire quand même que j'ai eu longtemps des rapports très courtois avec les parents d'élèves, sauf quelques exceptions. Vous savez, on côtoie quand même entre 600 et 700 familles dans une carrière et que les parents sont plutôt soucieux de la réussite des enfants. Ceci dit, je pense quand même qu'il y a une évolution. Alors, est-ce que c'est une évolution qui est liée à la géographie ou à l'histoire ? Je ne sais pas. Le témoignage que je peux vous apporter, c'est que je pense que les parents maintenant sont peut-être pas très investis, très curieux des activités des enfants. Et je vais prendre un exemple très simple. Dans les années 80, nous avions souvent avec les enfants des projets liés à l'environnement. On faisait des travaux sur la forêt, sur la haie, etc. On construisait des haies. Et puis, ça me permettait l'occasion de faire des films. Et je convie les parents pour venir voir le film à la fin de l'année. Et les parents se sentaient vraiment investis par rapport à ça. Ils venaient. J'avais quasiment les trois quarts des parents d'élèves qui venaient voir le film. Et puis, dans les années 2000-2010, j'ai changé d'école. Je suis allé dans une ville. Et j'ai eu l'occasion de monter un projet assez important, avec un coup de pouce très intéressant de la part de l'inspection, où j'emmenais des élèves dans la vallée de Chamonix, leur faire découvrir la montagne. Pour certains, c'était vraiment merveilleux parce qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, j'en ai tiré un film lié à ce projet, que j'ai voulu présenter aux parents d'élèves. Nous étions partis avec deux classes, et ça représentait environ 55 familles. Eh bien, je vous le donne en mille, lorsque j'ai présenté ce film, nous avons eu 5 à 6 familles sur les 55 qui se sont déplacées. Mmh. Je dois vous dire que j'ai un peu gros sur la patate, comme on dit, sauf que bon, j'étais content pour les enfants, mais par rapport aux parents, j'ai trouvé ça un petit peu, pour le moins, lamentable. Quoi. Voilà. Mmh.
Merci Patrice pour cette remarque, pour ce témoignage. Est-ce que vous sentez une forme de désinvestissement, Frédéric Rollet, sur tout ce qui est activité extérieure de la part de certains parents? Je mets des guillemets, mais l'école n'est pas là pour ça de toute façon. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'académie. Est-ce que vous sentez quelque chose de ce goût-là?
Il y a un désinvestissement, mais on sait que notamment les divertissements des jeunes ont changé, qu'ils passent beaucoup de temps sur les écrans. Ils communiquent avec des jeunes de leur âge. Et c'est vrai qu'il y a sans doute moins de dialogue qu'il pouvait y avoir, y compris dans les familles. Oui.
Tiens, je voudrais qu'on écoute Bernard, parce que ça fait longtemps qu'il nous attend. Pauvre Bernard, ça fait 20 minutes que vous poireautez. Pardon, allez-y.
Oui, bonjour. Moi, j'étais principal et demain, j'entame ma 11e année de retraite. Et déjà, donc, lors de mes 3 dernières années, certains collègues, profs, donc, venaient me montrer des réponses ou des mots que les parents leur adressaient, mais la courtoisie, ils savaient pas ce que c'était. Et donc, j'avais préparé une circulaire, puisque il commençait à y en avoir quand même beaucoup, puis déjà M. Fautinos a dit que j'avais participé à 2 de ses enquêtes, mais il dit que ça s'empire. Et à l'époque, donc, il y avait la circulaire qui était là, et je mettais la date, le nom de l'élève et ma signature manuscrite, sinon tout le reste c'était imprimé, et je proposais aux parents, si leurs options éducatives différaient à ce point des nôtres, j'étais prêt à faire tout ce qui était à mon pouvoir pour les aider à changer de collège. Et en principe, ça suffisait à calmer les choses. Alors je dois dire que mes 3 dernières années, j'étais dans un collège assez chic, disons, et auparavant, j'avais passé 7 ans en ZEP et 6 ans en zone urbaine sensible.
Ce que vous voulez dire,
là,
c'est qu'il n'y a pas de profil.
Pas du tout,
c'est
ce même, ces mêmes rapports.
Hein. Merci beaucoup, c'est intéressant, Georges Fautino, ce que dit votre collègue. Il n'y a pas de profil réellement de parents qui peuvent parfois être agressifs. On ne l'est pas forcément de la même manière, on ne l'est pas avec les mêmes mots, mais à la fin, qu'on soit dans un collège un peu huppé dont parlait notre auditeur et dans un autre collège, finalement, c'est à peu près la même chose.
Oui, si vous préférez, à partir du moment où il n'y a pas ce travail en amont que j'ai évoqué, hein, de reconnaissance réciproque, obligatoirement, hein, le différent, s'il ne se résout pas par la parole, il se résout d'une façon violente. Et on trouve ça aussi bien comme dans les quartiers huppés, par exemple, vous avez des parents mais qui considèrent qu'ils surveillent littéralement l'enseignant dans sa progression pédagogique, et ils n'hésitent pas à aller voir le chef d'établissement et à envoyer même un courrier à l'inspecteur d'académie, car l'enseignant n'a pas respecté et ne pratique pas les méthodes pédagogiques que les parents voudraient. Si vous préférez, là, quelque chose de très important qui, là, il a mis le doigt dessus, c'est la différence. D'un côté, il y a les valeurs collectives données par l'école, et un certain nombre de parents ne veulent plus ces valeurs collectives. Ils veulent que les valeurs familiales prédominent à l'école. Et là, le conflit est latent, systématiquement latent. On l'a vu à travers par exemple, lorsque on a essayé de mettre en place tout le dispositif d'égalité filles-garçons, mais ça a été monstrueux. Il y a eu des rejets. Donc
ça,
à partir du moment où il n'y a pas ce travail en commun qui est fait en amont, à la limite, et je m'élève en faux aussi par rapport à les parents sont des missionnaires. J'ai monté des expériences que j'appelle école ouverte, c'est-à-dire l'école ouverte dans les collèges et avec les écoles primaires autour, pendant les vacances, dans les quartiers les plus défavorisés. Et les parents étaient invités à participer à une semaine, j'ai bien dit une semaine. Eh bien, vous savez, ils se sont débrouillés d'une façon ou d'une autre, ils étaient chômeurs, ils avaient toutes les difficultés, mais ils sont venus. Et on a été obligés de refuser du monde. Mais ça ne se passe pas comme ça, d'un coup de baguette magique. Tout le quartier s'est mis à sensibiliser les parents, c'est-à-dire aussi bien les commerçants que les professions libérales, etc. Et on a assisté en une semaine à des réconciliations entre parents complètement exclus du système éducatif qui avaient des mauvais souvenirs. Au bout d'une semaine, on avait réussi quasiment ce petit miracle.
Eh bien, formidable. Ça veut dire, Frédéric Rollet, qu'il y a des, recettes, il y a des choses qui peuvent marcher, évidemment,
oui,
pour... je parlais de renouer le fil tout à l'heure.
Renouer le fil. Et c'est vrai que les choses peuvent être différentes entre des parents de catégorie aisée, pour qui il y a une espèce, quelquefois, de revendication de la performance. Mmh, il faut que l'enfant puisse ensuite intégrer une grande école. Ouais. Et donc, on surveille, effectivement, le prof en oubliant qu'on est dans un collectif et qu'on respecte aussi le rythme de l'ensemble des jeunes. Et puis, d'autres parents qui, eux, se sentent dans, parce qu'ils ont de mauvais souvenirs de l'école, se sentent dans une difficulté. Mais donc, il y a effectivement des choses.
Ils se sentent regardés de haut par l'instituteur, le professeur, même si c'était pas le
oui,
cas.
C'est ça,
mais
oui.
Ils ont ce sentiment.
On voit ça quand on travaille avec ATD Carmonde, par exemple, sur ce qu'ils disent aussi. Et d'ailleurs, sur sans doute l'insuffisance dans la formation aussi des profs, de l'appréhension de des profils de ce type de ce type de famille.
On voit beaucoup justement parler de il faudrait former les profs, les professeurs. Je me fais beaucoup engueuler quand je dis prof. Est-ce que ça vous choque, vous, Frédéric Rollet?
Non.
Je voulais juste le savoir parce que je vais encore recevoir du courrier. Pas toujours aimable, mais des fois oui, c'est comme chez vous. On parle souvent de formations qui seraient utiles. Je ne sais pas si ce sont des longues formations, mais est-ce que vous voudriez ça? Est-ce que vous aimeriez parfois que des gens viennent vous voir et vous expliquent comment on fait pour discuter, tenir avec des parents qui sont parfois des parents difficiles, sans même aller jusqu'à des parents menaçants, en tout cas des relations difficiles?
Oui, alors je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord des apports de la sociologie, de la psychologie qui vont être importants dans la formation des maîtres, puisque c'est ça que ça s'appelle comme ça, sur justement ce que sont les familles, leur rapport à l'école, qui est toujours un rapport contradictoire, parce que pour pas noircir le tableau, quand on regarde les sondages, on voit que la majorité des Français, quand même, ont confiance dans leur école. Mais dès qu'il s'agit de leur enfant, on est évidemment dans l'intérêt particulier, donc ça peut provoquer des conflits. Et puis, il y a ce qui peut être l'instauration d'un dialogue entre deux personnes, deux adultes, mais qui ont des métiers, des rôles différents. Oui, ça pourrait effectivement être quelquefois utile.
Tiens, Marguerite a une solution même pour vous. Bonsoir, Marguerite.
Bonsoir. J'écoutais votre émission avec intérêt. Oui, en fait, enfin moi, c'est dans un système. En fait, c'était pas dans le système français, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, au début de l'année, une fois que les 2-3 premières semaines sont passées, il y a un rendez-vous qui est donné aux parents, qui est un peu sous forme de speed dating. C'est-à-dire que c'est de 19h à 21h. Et chaque professeur, en fait, a 10 minutes et pas plus pour présenter le programme du cours, présenter tout ce qui va être fait pendant l'année, et aussi la façon dont ils notent. C'est-à-dire que tant de pourcentage pour les devoirs, tant de pourcentage, par exemple, pour les examens, tant de pourcentage pour l'attitude en classe. Les parents sont pas là pour discuter avec le professeur, c'est vraiment le professeur qui présente pendant 10 minutes son cours. Alors c'est assez bien fait parce qu'en plus ils prennent des élèves volontaires qui vont guider un peu les parents dans les couloirs, parce que par exemple vous allez aller en salle 302 pour, je sais pas moi, les arts plastiques, puis les arts descendre pour... Et donc vous avez des élèves volontaires dans les couloirs qui aident un petit peu les parents à se retrouver. Chaque parent aussi colle sur sa poitrine le prénom de son enfant, le nom de son enfant. Donc aussi, ça permet de se reconnaître entre parents, ce qui est pas toujours, on connaît pas toujours les parents des autres élèves. Et aussi, on profite, comme c'est de 19h à 21h, pour mettre dans l'établissement quelques tables dans les couloirs où il y a 2-3 trucs à picorer. Et où on passe, il y a à peu près 5 minutes de battement, peut-être 5 ou 10 minutes de battement entre chaque... si j'ose dire speed dating, et du coup ça permet, j'allais dire, aux parents de se rencontrer dans les couloirs, de discuter un peu, de rigoler. Ça permet de rencontrer, enfin en tout cas de voir le professeur, et aussi de repartir avec une feuille sur laquelle on a le programme, le système de notation, etc. J'ai trouvé que c'était très bien fait.
C'était où, pardon, j'ai peut-être zappé, vous l'avez peut-être dit, c'était où?
Alors c'est dans le système américain.
C'est dans le système américain, d'accord.
Voilà.
Qui est encore
et
un système très particulier.
C'est de la sixième à la terminale. Et c'est vrai que voilà, c'est en début d'année. Et je trouve ça très bien parce que voilà, là encore une fois, les parents sont pas là pour revendiquer ou pour parler ou pour poser des questions, mais ils sont vraiment là pour écouter le professeur. Et le professeur a 10 minutes et quand la sonnerie retentit, si c'est au milieu d'une phrase, c'est pas grave, c'est terminé. Vous voyez, donc c'est assez, j'ai trouvé ça à la fois convivial et puis très utile aussi pour en tant que parent. De pouvoir repartir avec toutes ces informations.
Eh ben pourquoi pas. Merci beaucoup pour cette expérience que vous avez partagée avec nous, Marguerite. Georges Fautinos, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal, non? Moi, je trouve ça assez marrant.
Très bien, mais je voulais poser une question à Frédéric Rollet, tout de même avant, parce qu'on se connaît un petit peu. Okay. Peut-être que une des façons de procéder nationalement pour intéresser les deux parties, c'est d'inscrire dans le projet d'école ou d'inscrire dans le projet d'établissement l'axe relation parents-école. S'il y avait peut-être cette dissaison-là, je crois que ça amorcerait derrière des réactions en chaîne et la relation parents-école serait prise au sérieux.
Frédéric Rollet, est-ce que vous en pensez à Georges Fautineau, j'aimerais bien votre avis quand même sur le système que Marguerite nous a décrit.
Oui, on peut l'inscrire dans le projet d'établissement. Après, on pourrait que ça peut prendre des formes variées. Moi, j'avais été intéressée par une expérience qui s'était passée en Seine-Saint-Denis, où on avait développé des formes de collectif de parents. Certains parents se retrouvaient toutes les semaines avec un enseignant référent, et ça avait contribué à dédramatiser certaines situations, à faire qu'il y ait d'ailleurs moins d'échecs scolaires de la part des jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Sur l'expérience, qui a été décrite aux États-Unis, enfin, moi, ça me rappelle quand même, nous on fait ça, moi dans mon collège, on reçoit en début d'année, c'est le professeur principal qui réunit qui explique aux parents, et les autres professeurs des autres disciplines peuvent venir passer, dire...
Mais c'est moins ludique, il y a un côté plus ludique. Oui, mais enfin, on est dans l'établissement.
En même temps, ne pas laisser la parole du tout aux parents qui ont besoin, quelquefois, de poser tout bêtement quand même des questions. Je trouve que c'est quand même, de nouveau, se mettre dans une position un peu descendante.
Ça pourrait marcher dans les deux sens, en fait. On pourrait décider, après tout, dans les speed dating, les deux parlent autant de temps. Donc, il y aura peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose, finalement, à inventer et à aménager. Et Guillaume, vous êtes le dernier, si vous me promettez d'aller vite.
Oui, alors.
C'est parti. Moi, go.
Merci. Je voulais apporter un petit contre-pied à un témoignage du professeur qui disait qu'il avait vécu un désengagement des parents dans les activités des enfants. Moi, j'ai la chance d'avoir ma fille qui est dans une petite école de campagne, donc où il est censé avoir une assez grande proximité entre le corps enseignant et les parents d'élèves. Donc, on a une APE qui est très dynamique. Et depuis quelques temps, on a eu un changement de direction au sein de l'établissement et un désengagement complet de l'équipe enseignante des activités que mettait l'APE en place, en fait. En l'occurrence, ils ne participent plus aux kermesses et sous prétexte qu'ils partagent suffisamment avec nos enfants dans le temps scolaire et qu'ils n'ont plus besoin d'échanger dans le temps périscolaire avec eux ou avec nous. Et donc, je pense que c'est donnant-donnant un peu la relation parent-enseignant et que des fois, les enseignants aussi portent des coups de canif à cette relation parce que l'équipe, nos enfants, ils sont pour plusieurs années dans cette école. Et je pense que le coup de canif que le corps enseignant a mis dans la relation, il va durer pour plusieurs années. Et je trouve ça dommage, en fait, cette dégradation.
Merci Guillaume pour cette remarque, Georges Fautineau et puis Frédéric Rollet juste après. Donnant, c'est ce que nous dit notre auditeur, Monsieur Fautineau. À un moment, les efforts doivent se faire de chaque côté.
Exactement, mais en même temps, il faut les faire travailler ensemble. Là, on a un très bel exemple, comment lutter contre la violence à l'école, qui est la principale préoccupation des parents d'élèves. Donc, il existe un certain nombre d'expérimentations que je connais, si vous préférez, ou que j'ai mis en place, où les parents participent systématiquement au filtre qui dans l'établissement, c'est-à-dire tous les problèmes de violence passent par un filtre où les enseignants et les parents sont réunis. Et je vous garantis qu'au bout d'un an de fonctionnement de ce type de structure, eh bien, les violences ont considérablement diminué, ont été résolues avant le conseil de discipline. C'est une façon de procéder, vous voyez, c'est un acte concret.
Merci beaucoup Frédéric Rollet pour la phrase de conclusion.
Oui, je terminerai en disant qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On l'a pas évoqué, mais dans la question du remplacement, par exemple, des profs, quelque chose qui est très sensible pour les parents, mais qui ne dépend pas des profs eux-mêmes. Et puis, on a parlé de l'évaluation assez rapidement et des problèmes de la réforme du lycée. Mais expliquer ce qui est difficile par définition, c'est une gageure. Donc, je pense que là aussi, il y aura beaucoup de travail à faire.
Et la réforme du lycée, ça fera l'objet évidemment d'un prochain téléphone sonne, parce que là aussi, il y a beaucoup à dire. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Merci à vos nombreuses questions, comme d'habitude. Et portez-vous bien.